Baby, traduire ou pas? Comment? Avec quel mot au plus près? Passage d'une langue à l'autre, trahir, trancher, hésiter toujours, francophoniser, pas beau, franciser, pas mieux. Are you ready?
Pascal Paradou.
Comment pourrions-nous lire Dostoïevski, Virginia Woolf ou Toni Morrison s'il n'existait pas de traducteur? Et je ne parle que des classiques, car en cette rentrée littéraire en France, 142 romans sur 521 sont traduits. Donc, quelle est la recette, le savoir et le savoir-faire de ces passeurs? Je vous suggère une lecture passionnante, le carnet d'un traducteur intitulé « Par instant, le sol penche bizarrement » et il est signé Nicolas Richard. Bonjour.
Bonjour.
Drôle de titre pour un livre qui raconte un métier et 30 années de traduction. C'est presque un titre physique.
Oui, c'est la sensation que j'ai eue parfois et que j'ai encore de perdre mes repères. À la fois quand je lis l'anglais, par moments il y a des petites choses que je dois traduire et que je trouve pas exactement. Et ensuite, quand je cherche à transposer cette langue anglaise dans ma propre langue maternelle, le français, là c'est pareil. L'impression que les repères habituels ne sont pas là. Je perds un peu ma langue aussi. Alors, c'est pas systématique, mais c'est une sensation que j'ai parfois.
Mais c'est une sensation agréable ou désagréable?
Alors, moi, je la trouve agréable, en fait, parce que il y a une dimension ludique dans ce que je fais, et pour moi, c'est un jeu amusant. C'est, tiens, ah là, je suis pas en terre inconnue, là, je suis plus à la maison, faut que je trouve une solution, mais ça penche.
Un petit côté explorateur.
Oui.
Alors, vous avez traduit 120 livres depuis le début des années 90. Je pense qu'aucun écrivain ne peut en écrire autant. Et pourtant, à vous lire, j'ai l'impression que traduire demande presque autant de temps qu'écrire.
Alors, il y en a qui écrivent très vite. Vous parlez de Dostoïevski, je crois, tout à l'heure. Je crois qu'il a écrit Le Joueur en 9-10 jours, il me semble. On compare des choses qui sont pas très comparables, mais l'acte physique de remplir des pages, c'est peut-être un des points communs entre l'auteur et le traducteur. Bon, bah ça peut se quantifier. À San Antonio, je crois qu'il écrivait 3-4 livres par an à la belle époque. Et moi, c'est à peu près ce que je fais en traduction.
Ouais, donc ni plus ni moins.
On compare des pommes et des poires, mais c'est pas l'ordre de grandeur est à peu près le même.
5 millions de feuillets noircis, dites-vous dans ce carnet d'un traducteur. C'est pas mal quand même.
Ouais. Je sais plus sur quel calcul je m'appuie.
En tout cas, vous êtes spécialiste, Nicolas Richard, de la littérature anglo-saxonne, avec une prédilection pour les écrivains américains. Est-ce que c'est par goût ou c'est le hasard qui a fait ça?
Alors, c'est un savant mélange des deux. Il se trouve que je suis allé beaucoup plus aux États-Unis qu'en Angleterre, et il se trouve que les auteurs de langue anglaise que j'ai découverts, et surtout qui m'ont sidéré le plus tôt, ont été américains. Donc, disons que j'ai attaqué le fort par ce flanc-là. Mais de fait, aujourd'hui, par exemple, quand je me rends en Grande-Bretagne, je me sens presque plus dépaysé que quand je vais au moins aux États-Unis sur la côte est, côte ouest.
À cause de la langue?
Alors, à cause de tout, justement. À cause de la langue, à cause de l'accent, à cause des références. Une des choses qui m'avait le plus dérouté quand je suis arrivé aux États-Unis, que j'ai commencé à baigner vraiment dans une langue qui n'était pas la mienne, c'était toutes les références télévisées. C'est-à-dire que ça s'apprend, on le trouve pas dans les dictionnaires, vraiment, c'est la culture en fait. Et donc, ce qu'on fait nous tout le temps en français, quand on cite un extrait de film ou quand on cite un bon mot à la télé, ou ces formules qui d'un seul coup deviennent complètement virales, comme on ne disait pas il y a une dizaine d'années, ça c'est partie de la culture, et voilà, donc ça c'est partie des choses qui déroutent vraiment, et elles sont, disons, programmées différemment, du moins à mes oreilles, en Amérique et en Angleterre.
Alors, pour devenir traducteur, Nicolas Richard, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut avoir fait de grandes études, être agrégé, faire un doctorat, ou s'imprégner d'une culture et d'une langue, comme vous le racontiez à la seconde?
Les deux chemins ne s'excluent pas du tout. En plus, je serais bien normal de dire ce qu'il faut faire, parce que moi, je raconte modestement mon itinéraire personnel, mais il me semble que pour traduire certains auteurs érudits, c'est quand même bien pratique d'avoir un doctorat.
Ce qui n'est pas votre cas.
Ce qui n'est pas mon cas. Il semble que pour traduire certaines paroles de hip-hop ou certains polars, c'est pas mal d'avoir une certaine connaissance de la langue de la rue. Et puis surtout, si on se cantonne pas dans un registre donné, ce qui est mon cas, on est obligé d'apprendre à chaque fois. Et finalement, ce qui fait un peu la différence, c'est l'enthousiasme à apprendre un registre nouveau.
Dans votre biographie publiée par la Société des gens de lettres, il est indiqué que vous avez posé nu pour des étudiantes, retapé des appartements à Brooklyn, fait la vaisselle à Bâle, était bûcheron dans le Valais et manager de groupes de rock. Ça conduit pas forcément vers la traduction ?
Tout cela est vrai, en tout cas. Alors c'est rigolo parce que là, il y a aussi une histoire de génération. C'est-à-dire que depuis relativement peu, il y a maintenant des formations très sérieuses et solides pour la traduction. Et si vous regardez les traducteurs, traductrices, au-delà, disons, de... Alors je sais pas où mettre le curseur, mais c'est peut-être 50, 60 ans. C'est plus des gens qui ont tracé leur itinéraire. La traduction semble être une sorte d'aboutissement d'une trajectoire de vie, plus ou moins. Ce sont des gens qui ont pu vivre longtemps à l'étranger ou... En tout cas, c'est une population assez hétéroclite, en tout cas pour l'instant. C'est-à-dire que la formation n'est pas parallèle, abstraite, n'est pas identique. Et ce que je constate, c'est aussi qu'il y a une sorte de solidarité, d'amitié spontanée entre traducteurs et traductrices, même quand on se connaît pas. Parce que finalement, on fait... Alors, et quelle que soit la langue, évidemment, ça peut être la traduction du russe ou du chinois, il y a une sorte de solidarité parce que nos modes de vie, finalement, sont assez proches. Il y a pas mal de points communs dans la façon dont on gère notre temps. Et la gestion du temps, c'est un peu le nerf de la guerre en traduction.
Et puis, il y a peut-être aussi ce goût de la transmission, parce que je trouve qu'il y a de la générosité dans l'acte de traduire.
Complètement, complètement. C'est une des raisons qui ont présidé à l'écriture de ce livre. Je me suis dit, c'est beaucoup d'anecdotes, certaines assez légères, ce qui s'est passé quand j'ai rencontré les auteurs, les fois où je me suis royalement planté dans mes traductions, les fois où je tâtonne, et voilà. Et en fait, je me suis dit, ça peut servir à des gens. Alors éventuellement, le petit bout de la lorgnette des personnes qui auraient envie de faire la traduction, mais plus généralement, des gens qui s'intéressent à la littérature. Parce qu'en fait, le traducteur ou la traductrice, il fabrique... Dans mon cas, en tout cas, il y a de la fabrication de littérature en français à partir d'une littérature étrangère.
Nicolas Richard, par instant, le sol penche bizarrement. Nous allons parler de cette sensation au cours de cette émission. Mais tout d'abord, White Velvet, je ne vous demanderai pas de traduire, car malgré son nom de scène, dans son nouvel album intitulé « Encore à contre-courant », elle chante en français.
Quand je me
White Velvet sur RFI, encore un peu. Nicolas Richard, exercice de traduction White Velvet, mot à mot, ça fait velours blanc. Est-ce qu'on peut faire mieux ?
Ça me paraît satisfaisant, sans contexte supplémentaire.
Donc je suis quasiment anglophone aujourd'hui, super. La musique, le cinéma pèsent sur l'évolution de la langue et de la traduction, vous le disiez tout à l'heure. Et dans le livre, vous laissez voir parfois le mot anglais dans la VF. Par exemple, ok, baby, hip, gay, queer. Vous dites que ça n'a plus besoin d'être traduit aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que vous adoubez des anglicismes ?
Alors, c'est pas exactement ça que je dis. Justement, on revient à la question que vous posiez sur White Velvet. J'attire l'attention sur le contexte, toujours. C'est-à-dire que c'est difficile de traduire comme ça à la sauvage, sans savoir de quoi on parle, pour qui, à qui on s'adresse. Ça n'a pas de sens de traduire Rolling Stones si, dans un livre, si on parle du groupe. En revanche, si on parle de Pierre qui roule, eh ben, faut le traduire. Donc là, voilà, il faut affiner un tout petit peu. Et ce que je constate, mais c'est pas une idée qui m'est propre, c'est que les langues bougent constamment. Déjà, si on prend comme unique référent le français, on voit bien que le français bouge au fil des siècles, au fil des décennies, et même chaque année. L'anglais, c'est pareil. Et alors, le rapport entre les deux langues bouge aussi selon les champs. Je me souviens des premières traductions de Philip Ross, où le traducteur est obligé de faire des notes pour le baseball, de raconter ce que c'était, etc. Et maintenant, c'est tout à fait inutile, parce que la culture sportive anglo-saxonne rayonne davantage, ou en tout cas est peut-être plus accessible. Donc voilà, il n'y a pas de réponse brutale,
dogmatique. Il n'y a pas de règle. Mais non. Vous dites que baby, par exemple, vous ne traduisez plus baby. Chérie, c'est pas mal,
alors,
pourtant.
Oui, chérie, c'est très bien. Chouchou, trésor, il n'y a pas de souci. C'est vraiment selon le contexte. Là, je crois qu'on fait allusion à la nouvelle de, comment s'appelle-t-il, le co-scénariste de Easy Rider. Et je reprenais une traduction, enfin, dans mon livre, je rejette un œil sur une traduction qui a 25 ans. Et, you're too cool, baby. Voilà, en anglais, c'est you are too cool, baby. Et puis, je crois que j'avais traduit en français le titre par tu es trop à la cool. Dans le souci, justement, de pas laisser l'anglais, en essayant de trouver quelque chose. Notre langue est riche, on va toujours trouver de solutions. Et après, c'est un peu un pied de nez, un peu ironique aussi, et c'est absolument pas une règle générale, mais je me dis parfois, on peut tout à fait comprendre, baby, pourquoi pas.
Nicolas Richard, par instant, le sol penche bizarrement et est incarné, comme le sous-titre l'indique, avec une soixantaine d'auteurs et d'autrices que vous avez traduits, pas mal de musiciens, notamment l'autobiographie de Bruce Springsteen, c'est vous, le discours du Nobel de Bob Dylan, c'est vous, les récits de Patti Smith, c'est encore vous. Alors, just for fun, Patti.
Where you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled alongside of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled down 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in front of a dozen dead oceans. Been 10,000 miles on the mouth of a graveyard. It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rains gonna fall.
Patti Smith devant l'Académie des Nobel à Stockholm en 2016, chantant du Bob Dylan, alors que celui-ci est absent et a enregistré son discours. Et c'est ce discours que vous avez traduit, Nicolas Richard. Donc beaucoup de rockers poètes, mais quand même dans votre vie, tout a commencé avec Brautigan, un autre poète. Tu es si belle qu'il se met à pleuvoir. Voilà votre première œuvre.
Oui, Brautigan, c'est vraiment un coup de foudre, en fait, quand je suis tombé dessus en tant que simple lecteur. J'ai commencé par lire Un privé à Babylone, traduit par Marc Chentier, avec une superbe préface absolument épatante de Marc Chentier. Et puis après, quelques temps après, je me retrouve à séjourner aux États-Unis, à voyager, et puis je tombe sur des poèmes dont j'avais entendu parler, mais qui n'existent pas en français, et là, j'avais découvert un trésor. En plus, c'était assez amusant parce que c'était sur la côte ouest, du côté de Berkeley, et c'est des livres à 50 cents ou à 75 cents, donc ça vaut rien. Et puis, jamais jusqu'alors l'idée m'était venue de traduire, vraiment. Je situais même pas vraiment cette activité réellement. Et puis, pour le plaisir, les poèmes de Brautigan, ils sont souvent tout petit, très court, il paie pas de mine dans une veine beatnik, plutôt post-beatnik, souvent assez humoristique. Et j'ai commencé à, vraiment pour m'amuser, et puis pour faire lire ça dans mon entourage, j'ai commencé à en traduire certains. Et puis, je reviens en France, et là, une sorte de coïncidence improbable, je me rends compte qu'un petit éditeur vient de se créer, c'était les éditions L'Incertain, et il avait commencé à sortir des poèmes de Richard Brautigan en version française. Et alors là, finalement, j'ai décroché mon téléphone et j'ai dit moi aussi, j'ai commencé à faire ça. Et très très vite, on s'est rencontrés avec l'éditeur et puis voilà, les poèmes ont été publiés.
Et un traducteur est né. Alors dans le chapitre que vous lui consacrez, vous racontez comment, faisant au cours du temps plusieurs traductions des mêmes poèmes, vous changez la traduction. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu, alors je ne sais pas si c'est votre marque de fabrique, mais vous êtes très très attentif à ça, à faire en sorte que la traduction soit toujours raccord à l'époque.
C'est exactement ce qu'on disait en tout début d'émission. C'est en tout cas tel que je perçois les choses. Les repères ne sont pas fixes, et donc, comme on le disait, les langues bougent. Mais mon intimité avec la langue anglaise et avec la langue française bouge aussi. Après 30 ans de traduction, mon français s'est amélioré. C'est pas encore ça, mais j'ai lu davantage, et j'ai 30 ans de lecture en plus, j'ai découvert plein d'auteurs, et puis j'ai entendu davantage la langue anglaise, et donc il y a des petites choses que j'entends différemment. Alors il peut y avoir aussi des contresens que je m'empresse de rectifier. Personne n'est véritable, aucun traducteur, aucune traductrice n'est totalement à l'abri du contresens ou du faux sens. Mais des fois, je me dis, tiens, je l'entends un petit peu différemment, ça mérite d'être revu.
Alors, exercice très pratique que vous citez dans votre livre, comment traduire le mot « negress » écrit en 1930 par Truman Capote, sachant que nous sommes en 2021.
Alors, est-ce que c'est pas le terme « negro » ou c'est « negress » ?
C'est « negress ».
D'accord.
Page 132.
D'accord. En fait, voilà, ça c'est une question épineuse qui se pose constamment, que je me posais encore ce matin en essayant de retraduire Howell de Ginsberg. Negro et negress au féminin, contrairement à ce qu'intuitivement on pourrait penser en français, c'est à une certaine période le terme officiel pour désigner les Afro-Américains. Donc, quand dans un texte d'une certaine époque, mais par exemple des années 50 ou antérieures, on lit negro en anglais, il faut absolument pas traduire ça par nègre, qui est extrêmement offensant aujourd'hui en français, à juste titre évidemment. Donc là, il y a un véritable piège. Et le dictionnaire est un peu, il nous suffit pas. Là, il faut vraiment, ça dépend de la culture, des mouvements de la langue qu'il faut essayer d'enregistrer.
Et revenir à la sensibilité de l'époque et des mots.
Voilà. Et aussi, peut-être, la conclusion, c'est à un moment donné se jeter à l'eau, décider quand même. À un moment donné, c'est pas un petit peu ça, un petit peu ça. Je crois que je le dis une ou deux fois dans le livre, j'assume, je signe seul la traduction. À un moment donné, après avoir instruit le dossier, je prends ma décision clairement, nettement, et donc, en tout cas, c'est sûr que negro ou negress, je le traduirai pas par nègre ou négresse, ce serait une véritable erreur.
Vous dites « traduire, c'est trancher ». Qu'avez-vous pensé, Nicolas Richard, de la polémique autour des traductions d'Amanda Gorman, vous savez, cette jeune poétesse américaine remarquée lors de l'investiture de Joe Biden? Faut-il être noir, justement, pour traduire une autrice noire?
Alors j'ai trouvé, il faudrait presque qu'on fasse une émission entière pour discuter de ça avec discernement. Disons qu'en deux mots, j'ai trouvé que la question était posée de façon un petit peu maladroite. Ce type de questions pour lesquelles la réponse est induite Sous-entendu, bah bien sûr que non, j'ai entendu ça partout. Bien sûr, dans ce cas-là, il faudrait être un grec du 5e siècle pour traduire un grec du 5e siècle. La question ne se pose pas en ces termes. Et au moment de cette polémique, alors il se trouve que j'étais complètement la tête sous l'eau, parce que donc j'ai pas suivi de manière au jour près. Mais c'est finalement du côté de mes collègues britanniques et de mes collègues québécois que j'ai entendu les choses les plus sensées. Les Québécois en particulier, parce qu'ils ont l'habitude, pour des raisons historiques, de voir une partie de la population qui est complètement dans l'ombre et de prendre des mesures pour que cette population soit visible. Ce que je peux dire pour prendre cette problématique un tout petit peu dans l'autre sens par rapport à la question telle que vous la posez, c'est... Il y a quand même beaucoup de blancs en France qui traduisent. Ça veut dire qu'il y a personne, il y a pratiquement pas de non-blancs qui sont capables de traduire. Voilà, je préfère poser la question en ces termes et qu'on y réfléchisse tranquillement.
Comment traduire? Est-ce qu'il faut surtraduire, sous-traduire? Ça fait partie de vos questions. Comment traduire l'oralité chez Truman Capote? Comment traduire les onomatopées chez Tom Wolfe? Comment rendre compte de la particularité de l'invention d'un auteur? Écoutez Maurice Ponce, qui fut l'un des traducteurs de D.C. Williams et de Norman Mailer.
Bon, faut pas être fidèle. C'est affreux de dire ça, c'est de la présomption. Il faut être un peu fidèle, mais pas trop fidèle. Il y a des choses... Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Notamment les calembours, les astuces, tout ça. On ne peut pas les traduire. Donc, il faut les remplacer par autre chose. Et Norman Mailer, notamment, toutes les... c'est d'une grossièreté incroyable. C'est presque obscène. D'ailleurs, les chapitres, au lieu de s'appeler chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ni comme au théâtre, scène première, scène 2, etc. Il appelle obscène 1, obscène 2, obscène 3. Donc, il faut remplacer une obscénité par une autre. Donc, c'est plus que de la traduction, c'est de la réécriture. Et c'est passionnant.
Nicolas Richard, vous reconnaissez dans ce récit, dans ce témoignage fait par Maurice Ponce?
Alors, j'entends ce qu'il dit. Moi, je suis moins dogmatique. C'est même l'objet de mon livre... si je trouve que le sol penche bizarrement, c'est de fournir le plus généreusement possible des exemples en disant, vous voyez, si j'avais affirmé qu'il faut pas être fidèle, bah au coup d'après, finalement, je montre à quel point je tâche d'être fidèle. Et inversement, pour ce qui est des calembours, alors à titre personnel, moi j'adore, ça fait partie, c'est un plaisir d'écriture, d'essayer de trouver quelque chose qui ira bien. Je pense que c'est peut-être un écueil, quand on parle de traduction, de théoriser, d'être tenté de théoriser à tout prix. Et puis évidemment, le prochain exemple démontrera que ce qu'on avait affirmé de manière un peu péremptoire était faux.
En tout cas, ce qui est sûr dans votre cas, Nicolas Richard, c'est que si vous ne connaissez pas bien votre domaine, le secteur, ce que raconte l'auteur, vous refusez de traduire. Vous le dites pour le baseball ou pour le jazz. Oui. Vous connaissez rien au baseball, vous ne traduisez pas un livre sur le baseball. En revanche, la pêche... la pêche, vous allez voir la nounou de votre fille.
Absolument, à la crèche. Oui. C'est pas seulement une sorte de connaissance froide qu'on aurait, on maîtrise ça ou on maîtrise pas. C'est aussi la qualité littéraire du texte qui fait pencher la balance pour moi, qui fait que j'accepte ou pas une traduction. Et Tom McGuinn... sa série de nouvelles sur la pêche, je les trouve magnifiques, ces nouvelles. C'est des articles de 2, 3, 4 pages, ciselées, très fines. Et j'ai estimé que ça méritait que je me mette dans le bain, c'est le cas de le dire, et que je comprenne ce qui se passe quand on pêche à la mouche en Alaska, dans le Montana ou en Irlande, que je fasse vérifier auprès de professionnels, de gens qui connaissent très bien la question. Parce que la dimension littéraire de ces textes-là était vraiment épatante.
Et donc ceux qui connaissaient bien la pêche à la mouche et autres, c'était les amis de la nounou de votre fille.
Voilà, c'est ça.
Alors en fait, on imagine un traducteur un peu seul, un peu laborieux, entouré de ses dictionnaires, mais dans ce livre, vous nous racontez aussi l'inverse. Et il faut dire que vous traduisez beaucoup, avec un spectre assez large et des référents assez classes.
Est-ce la propriété de Perrier-Lapadite?
Je suis Perrier-Lapadite.
C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Je suis le colonel SS Hans Landa.
Que puis-je faire pour vous?
J'espérais que vous m'inviteriez à entrer chez vous, afin que nous puissions avoir une discussion.
Certainement. Après vous.
Monsieur Lapadite, je suis au regret de vous informer que j'ai épuisé l'étendue de mon français.
Continuer à ne parler si peu convenablement ne ferait que me gêner. Cependant, je crois savoir que vous parlez un anglais tout à fait correct, n'est-ce pas?
Oui.
Ma foi, il se trouve que moi aussi. Puisque nous sommes ici chez vous, je vous demande la permission de passer à l'anglais pour le reste de la conversation.
Certainement.
Extrait du film Inglourious Bastard de Quentin Tarantino, dont vous signez Nicolas Richard les dialogues en français, mais vous avez aussi traduit en cette rentrée littéraire les mémoires de Tarantino. Il était une fois à Hollywood, c'est chez Fayard.
C'est pas du tout ses mémoires, hein, c'est un roman, c'est une novélisation, donc très librement inspirée de son dernier film, avec d'énormes différences par rapport au film. C'est son premier roman.
Et vous êtes depuis très proche de Tarantino, vous l'avez rencontré plusieurs fois, c'est ça qui me fait dire que c'est assez classe votre métier.
Ce qui est classe, c'est travailler sur des textes classe.
Mais vous rencontrez toujours les auteurs ou presque?
Quand ils sont vivants et que c'est possible, oui.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, à force de passer 2, 3, 4 ou plus de mois dans un texte, dans le texte d'un auteur, on est dans une intimité avec, au moins avec, alors pas avec lui physiquement bien sûr, mais avec ses façons, sa façon de penser, avec ses références. Et moi, à chaque fois, j'ai constaté que je me sentais très très proche des auteurs ou des autrices que je traduisais parce que je m'immergeais totalement dedans. Donc quand ils viennent à Paris par exemple ou n'importe où en France pour promouvoir leurs livres, j'essaye de les rencontrer et souvent c'est comme si deux vieux amis se retrouvaient alors qu'on s'est jamais vus.
Et vous avez rencontré Balto?
Vous faites allusion au mot de passe.
Je fais allusion.
Qui était le mot de passe au sein de la maison d'édition pour désigner Barack Obama. Lui, pas encore, non?
Pas encore, parce que vous avez traduit, là, les mémoires, pour le coup, sont les mémoires de Barack Obama.
Voilà, alors nous étions trois traducteurs, hein, avec Charles Encourcé et Pierre Demarty.
Et il vous a donné du fil à retordre?
Oui, parce que il y a énormément de références en rapport avec l'exercice du pouvoir aux États-Unis, des références à la politique américaine, à l'économie, qui sont des domaines que... Alors finalement, la politique, je la suis beaucoup en anglais, mais je me pose quasiment jamais la question de savoir comment traduire ce qui se passe au Sénat, les mouvements pour les lois, etc. etc. Donc oui, moi ça m'a donné du fil à retordre.
En tout cas, c'est un roman d'espionnage, ce chapitre, puisque jamais il n'est possible de prononcer le nom de Barack Obama. Voilà. Vous êtes quasiment surveillé, vous avez des consignes de sécurité, et vous ne prononcez jamais que le nom de Balto.
Voilà, c'est ça. Et même, je préviens dans le livre, je n'affirme pas que tout est vrai. C'est le seul passage de mon livre où je n'affirme pas que tout est vrai à 100%. Pour des raisons contractuelles, que d'un contrat que j'ai signé avant de commencer la traduction.
Et qui vous lit encore aujourd'hui.
Qui lit encore aujourd'hui.
Merci beaucoup Nicolas Richard. Par instant, Le sol penche bizarrement est édité chez Robert Laffont. Et dans votre actualité, il y a aussi, ça c'est il y a quelques mois, La vie vagabonde de Laurence Ferlinghetti dans la collection Point. Et puis plusieurs textes en cette rentrée, je crois qu'il y en a 6 d'ici le mois d'octobre qui paraissent, dont le fameux Tarantino. Merci beaucoup. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Cécile Labolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain.